En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Dans le cadre du colloque international « Guerre et politique » initié par l'académicien Jean Béchler de l'Académie des sciences morales et politiques, Canal Académie vous propose d'écouter la communication de Yann Le Boeck, professeur à l'Université de Paris 4 Sorbonne. Son intervention s'intitule « Le rôle de la guerre dans la vie politique romaine à l'époque d'Auguste ». C'était à la Fondation Del Duca, le 18 janvier 2013.
Vous m'angoissez, Monsieur le Président. Je cède d'abord à un rite tout à fait agréable, qui est de remercier les organisateurs de ce colloque, et d'abord Monsieur Béchler, ainsi que Messieurs Olyndre et Rouvier, qui ont beaucoup aidé dans la préparation de mon travail. Alors, je ne voudrais pas que vous imaginiez que je cherche à tout prix à vous étonner, à vous épater, à vous surprendre. Je dois pourtant commencer cet exposé qui pourrait s'intituler « Guerre et politique » d'ailleurs, je pense que ce sera le titre définitif d'ailleurs, dans le monde romain à l'époque d'Auguste. Je voudrais commencer cet exposé, et je ne peux pas ne pas commencer, par deux paradoxes. Le premier, c'est que pour les Romains, qui ont conquis un empire immense, la guerre était un mal. Par voie de conséquence, la paix était un bien. Le deuxième paradoxe, c'est que dans cet État qui a tellement conquis de territoire, le pouvoir militaire était subordonné au pouvoir politique, et ce qui est peut-être plus étonnant encore, ces deux pouvoirs étaient très strictement encadrés par des croyances religieuses. Pour nous, Français du XXIe siècle, qui sommes très habitués à une république laïque, ceci peut nous surprendre, mais l'omniprésence des dieux était fondamentale pour les Romains. J'ai choisi le règne d'Auguste, particulièrement, qui n'est qu'un tout petit moment dans l'histoire de Rome. Il commence en 31 ou 27 avant Jésus-Christ, et il s'achève en 14 après Jésus-Christ, parce que c'est un moment privilégié. Il se place tout de suite après la disparition de la République, dont vient de vous parler M. Béchler, qui est une république aristocratique, et au moment où s'ouvre une nouvelle ère dans l'histoire de Rome, c'est-à-dire une époque de monarchie. Alors, cette période permet de toute façon de comprendre les principales composantes du pouvoir, sous le principat bien sûr, mais aussi avant et après le principat, donc à l'époque républicaine et dans la période qui suit. La relation entre guerre et politique, guerre et paix, s'explique par les mentalités collectives des Romains. Merci. Alors, c'est
ici, là-dessus. Je suis là.
Voilà, merci. Je vous embêterai moins tout à l'heure pour la suite. Donc, s'explique par les mentalités collectives. Les Romains ont élaboré un schéma qui leur était propre. Je crois qu'aucun autre peuple n'a élaboré le même schéma dans l'histoire de l'humanité. En tout cas, s'il y en a, je serais heureux de l'apprendre. Ce schéma fut consubstantiel à leur état et il se développa en quatre étapes successives. Le voici. Comme on l'a dit, la guerre est un mal parce qu'elle s'accompagne de blessés et de morts. Le blessé, dans l'Antiquité, à cette époque-là, c'était un mort en sursis, et aussi de destruction. Toute la littérature latine et toute la littérature grecque d'époque impériale expriment ce sentiment avec encore plus de force quand il s'agit d'une guerre civile. Et pour les Romains, la guerre civile n'est qu'une forme de guerre, hein, ça s'inscrit dans cette même problématique, avec en plus l'horreur d'être civil. Plusieurs auteurs modernes ont été frappés de constater que dans tel ou tel auteur de l'Antiquité, il y avait un éloge vibrant de la paix. Virgile a surpris plusieurs de ses lecteurs, et quelques décennies plus tôt, Tibulle avait manifesté les mêmes sentiments. Alors, un commentateur a voulu en faire, je cite, un pacifiste, et même, je cite également, un antimilitariste. En réalité, le pacifisme n'a pas existé dans l'Antiquité, et en parler relève de l'anachronisme. Quant à Virgile, le plus grand poète de la langue latine, il exposa et défendit avec force dans tous ses poèmes l'idéologie augustéenne. En faire un pacifiste, et pourquoi pas un contestataire tant que nous y sommes, constitue une absurdité. En réalité, Virgile disait très bien ce que tous les Romains disaient moins bien et ce qu'Auguste pensait. La guerre est un mal et donc la paix est un bien. Cela dit, quand le malheur survient, c'est-à-dire la guerre, il faut y faire face. Et il faut y faire face jusqu'à la victoire, comme vous le voyez sur le tableau qui suit. Il faut éviter, avant d'arriver à la victoire, il faut éviter, il convenait pour les Romains d'éviter le plus possible le conflit. Et des règles juridiques et religieuses très strictes présidaient au déclenchement de toute hostilité, qui devait être une guerre, je cite l'expression traditionnelle, juste et pieuse, c'est-à-dire en latin, un bellum justum piumque. C'est curieux, il y a toute une littérature sur le bellum justum, la guerre juste, conforme au droit, beaucoup moins sur la guerre pieuse, qui a souvent échappé à l'attention des commentateurs. Il y a encore un beau sujet de thèse à faire pour ceux que ça peut intéresser. Une guerre devait être toujours défensive. Donc, elle devait être précédée par une demande de réparation qui était adressée à l'ennemi, l'agresseur. Alors, cette requête, qu'on appelait en latin la clarigatio, devait être formulée par un prêtre spécialisé qui était envoyé à l'ennemi, qu'on appelait le pater patratus. En cas de refus ou en l'absence de réponse, on n'en était pas encore à la guerre. Des rites devaient précéder les opérations. Ils commençaient par l'intervention d'autres prêtres, qu'on appelait eux les fessiaux, qui lançaient un javelot sur le territoire du peuple qui avait causé du tort. Suivait l'ouverture du temple de Janus, des sacrifices divins offerts à des dieux spécialisés dans l'aide aux victimes et aux guerriers, la triade capitoline, Mars, Apollon, Vénus, etc. Et la guerre était étroitement soumise donc à la religion, aussi au droit. Cette conception a conduit Paul Venn à publier un article dont le titre peut paraître une provocation. Y a-t-il eu un impérialisme romain ? Avec un point d'interrogation. Ça, c'est du Paul Venn. Hein. Bon, c'est intelligent, brillant, amusant. Mais en même temps, extrêmement important. Ça attire l'attention des gens sur un problème que personne n'avait vu avant lui. Donc, dans cet article, ce n'est pas évidemment un gros livre, il a pris plusieurs guerres, les a étudiées, et il a conclu que dans chacun de ces cas, c'était les Romains qui avaient été les agressés, qui avaient été les victimes. Bien entendu, je vous rassure tout de suite, je ne suis pas naïf, Paul Venn non plus, vous non plus certainement, et nous devinons qu'il y a des arrangements avec le diable, plutôt avec les dieux et avec les lois. Pourtant, quand on fait l'histoire de Rome, beaucoup de territoires ont été conquis parce que leurs dirigeants ont attaqué les Romains et qu'ils ont perdu la guerre. Une fois que la guerre était engagée, ai-je dit tout à l'heure, elle ne pouvait s'arrêter qu'à la victoire pour deux raisons. D'abord, le peuple romain considérait qu'il était le peuple le plus pieux du monde. Et c'est en récompense de cette vertu que les dieux lui avaient donné, lui donnerait toujours la victoire. Ensuite, le peuple romain ne se connaissait pas d'égal. Il possédait la majesté, c'est-à-dire en latin maiestas, qui vient d'un comparatif, maius, plus grand que. Le peuple romain était supérieur à tous les autres peuples, et donc, par exemple, il ne signait aucun traité à égalité, on ne signait pas les traités dans l'Antiquité, c'est un anachronisme, il ne concluait aucun traité avec aucun État à égalité. Les traités étaient iniques, ce qui veut dire inégal en latin. Depuis, on a donné un autre sens à cet adjectif. Et donc, les Romains ne pouvaient considérer une défaite, parce qu'ils en ont eu, bien entendu, hein, que comme une péripétie de l'histoire, ou une manifestation de la mauvaise humeur des dieux, ou de leur distraction. Vous savez que les dieux ont quand même beaucoup d'occupations, et pas seulement des humains. Alors, c'est les dieux qui donnent la victoire. Et cette victoire engendre la paix, qui est un bien, elle-même engendrant la felicitas. Alors, c'est un mot latin, pardonnerait d'être un petit peu cuistre, mais on ne peut pas toujours l'éviter. Felicitas, c'est un mot latin qui n'a pas bien d'équivalent en français. On traduit ça par le bonheur, mais c'est une conception du bonheur qui est extrêmement matérialiste. Et Félix, par exemple, le général qui a remporté une bataille. Et Félix, le propriétaire dont les greniers sont pleins de blé, le cellier plein de vin, c'est ça la Felicitas, c'est ça qui vient de la baie. Voilà. Alors ce schéma n'a subi au cours de l'histoire. Alors ce premier schéma, vous le trouvez des origines de Rome jusqu'à la disparition de Rome, hein, sans interruption. Il n'a subi au cours de l'histoire romaine que deux légères modifications. La première, c'est celle que vous voyez ici, et qui est une conséquence de la deuxième guerre punique entre 218 et 201 avant Jésus-Christ. C'est encore ce qu'on appelle la guerre d'Hannibal, donc quand les Carthaginois ont essayé de détruire, enfin, quand Hannibal, le Carthaginois, a essayé de détruire Carthage. À plusieurs reprises, la guerre était tellement dure que beaucoup de Romains se sont dit nous devrions arrêter, nous devrions capituler, nous n'arriverons jamais à vaincre les Carthaginois. Et c'est le Sénat romain qui a eu le courage de dire non, nous ne capitulons pas, il n'en est pas question. Il faut résister, et nous résisterons jusqu'au bout. Du coup, le Sénat, en outre, a fourni des généraux extrêmement compétents qui ont permis, finalement, de vaincre Hannibal et de remporter la Deuxième Guerre punique. Du coup, après 201, le Sénat s'est placé moralement, mentalement, psychologiquement, entre les dieux et la victoire. Donc c'est le Sénat, c'est les dieux donnent la victoire au Sénat, qui la donne au peuple romain. Le règne d'Auguste a porté aussi, donc je passe sur la crise du Sénat, je ne ferai pas déborder sur le temps qui m'a été imparti, j'aurai un texte écrit, rédigé un peu plus long. Donc le Sénat, à l'époque d'Auguste, pardon, il y a eu une petite modification très simple, c'est que le nom du Sénat a été remplacé par le nom d'Auguste, de l'empereur. Autrement dit, les dieux désignaient Auguste pour apporter la victoire au peuple romain. C'est un aspect fondamental de la politique d'Auguste, c'est toute sa finesse. Il a instauré une monarchie, mais il ne pouvait pas le dire, parce que le titre de roi était odieux aux Romains. Et puis, il voulait conserver le Sénat, qui est indispensable. Et donc, il lui fallait camoufler la réalité tout en effectuant une vraie révolution. Il l'a fait sous l'apparence d'une restauration du passé. Il a utilisé habilement les inscriptions, les monnaies, les artistes, les écrivains, et il a réparti à travers tout l'Empire, et surtout à travers Rome, des signaux dont chacun nous paraît banal, pris isolément, mais qui constitue un véritable puzzle. On notera à ce passage, donc disons-le rapidement, que les Romains ont été le seul peuple de l'Antiquité à passer du régime aristocratique au régime monarchique sans connaître la démocratie. Et je ne connais aucun auteur qui ait dit « nous sommes en difficulté, nous avons des problèmes, pourquoi n'essayerions-nous pas la démocratie ?» Je ne connais pas. Donc si vous en connaissez, ça me rendra service. Ce régime qu'Auguste a créé, je vais vous le présenter très rapidement, c'est une monarchie, mais une monarchie qui n'est pas absolue. Elle n'a jamais été définie, ni loi, ni livre. Auguste l'a exprimé à travers un certain nombre de documents. Et donc, nous dirons, comme par exemple cette inscription qui a été trouvée à Apt, dans la province de Gaule Narbonnaise, avec le latin, j'ai oublié de mettre la traduction. « Voici le père de la patrie », dit la première ligne. C'est un titre d'Auguste. Vous pensez que... Ah oui, voilà. « Voici le père de la patrie », dit la première ligne. « Il est l'empereur... » Alors, « père de la patrie », c'est un premier titre. « Il est empereur, César, Auguste. Il est fils du divinisé. » Le divinisé, c'est César. « Il est... » Donc, nous avons empereur, chef de l'État... chef des armées, pardon, César, chef de l'État, Auguste, titre religieux, fils du divinisé César, être fils de Dieu, ça aide quand même quand on fait de la politique, souverain pontife, chef de la religion, consul à 12 reprises, ça veut dire qu'il y a eu 12 fois la Légion d'honneur, parce que sous le Haut Empire, ça ne donnait pas un pouvoir très, très concret, désigné pour un 13e consulat, même chose, acclamé impérator à 14 reprises, alors ça c'est extrêmement intéressant, ça nous renvoie au troisième schéma que je montrais tout haut, parce que ça veut dire que c'est Auguste qui, a donné 14 fois la victoire aux armées romaines, même quand il n'était pas sur le champ de bataille. Revêtu de la 21e puissance tribunicienne, c'est un pouvoir civil qui revient à Auguste. La puissance tribunicienne donc permet à Auguste de casser les décisions des autres magistrats et ça lui donne l'inviolabilité. C'est-à-dire que si on porte atteinte à sa personne, on commet un crime, ce qui est déjà grave, mais on commet aussi un sacrilège, ce qui pour les Romains est bien pire. Donc, il utilise l'épigraphie, il utilise la sculpture, en particulier, donc, il fait reproduire à Rome un grand nombre de portraits, de petits bustes. Celui-ci le montre en tant que souverain pontife avec le voile sur la tête. Donc il fait reproduire ces bustes qui sont diffusés dans les capitales de province et qui, des capitales de province, sont diffusés jusqu'à l'intérieur des provinces pour faire connaître sa personnalité. Je vais surtout maintenant, pour ne pas dépasser tout le temps qui m'est imparti, vous présenter un certain nombre de documents qui justement constituent ce puzzle dont j'ai parlé tout à l'heure, ce puzzle augustin qui montre son pouvoir. Alors, à travers toute la ville de Rome, donc, il a fait construire un assez grand nombre de monuments que vous voyez ici, dont chacun est d'une extrême naïveté, d'une extrême gentillesse. C'est un très, très brave homme, Auguste, mais qui, au total, font de lui un véritable monarque. Pouvoir institutionnel, que je viens d'évoquer, pouvoirs sociaux, il y a une noblesse d'empire qui se crée. Un historien britannique a écrit un livre sur la Révolution romaine, qui est un ouvrage extrêmement intelligent, extrêmement important, et puis cette idéologie diffusée un petit peu partout. Mais cette monarchie n'est pas une monarchie absolue. Il y a des contre-pouvoirs qui limitent le pouvoir d'Auguste. Il y en a à Rome, au centre, et il y en a à la périphérie, sur les frontières et dans les provinces. Au centre, c'est d'abord le Sénat. Là encore, aucun homme politique, aucun souverain de l'Antiquité n'a songé à faire disparaître le Sénat. C'était une institution fondamentale et le Sénat est resté en place. Il y a le peuple romain. Alors lui, le peuple romain, il faut dire honnêtement qu'à partir du moment où Auguste prend le pouvoir, il n'est beaucoup plus dynamique. Hein. C'est surtout pas sur lui qu'il faut compter pour créer la démocratie. Lui, ce qu'il demande, c'est qu'il y ait du pain et des jeux, hein, panem et circenses, comme l'a dit quelques décennies plus tard le poète Juvénal, qui était une très mauvaise langue, mais qui là a tout à fait raison. Et donc, il ne manifeste que quand il a faim. Donc, quand il y a une coupure d'approvisionnement, il descend dans la rue en disant « Nous voulons du pain ». Et puis, il y a les prétoriens. C'est le troisième élément de la ville de Rome. Les prétoriens, au départ, c'est simplement la garde impériale, 5000 soldats d'élite qui constituent la garde impériale, et qui, à cette époque-là, à l'époque d'Auguste, sont extrêmement sages. Ils obéissent, ils font leur service, et puis c'est tout. Par la suite, on les voit intervenir dans des coups d'État. Mais là, je vous donnerai une interprétation qui m'est personnelle. À la différence de beaucoup de mes collègues, de mes contemporains, je ne crois pas que les coups d'État qui sont attestés sous l'Empire romain ont toujours eu un but égoïste. Les soldats ne se soulèvent pas pour demander une augmentation de salaire et des loisirs. Ils ne peuvent pas tous être assimilés à des pronunciamentos de l'armée mexicaine du XIXe siècle. Certains répondaient à une vraie nécessité. Autrement dit, quand un empereur est vaincu, quand un empereur a des difficultés, ça veut dire que les dieux ne le soutiennent plus. Et donc, il faut le remplacer. Comme il n'y a pas de système prévu pour remplacer le souverain en place, eh bien, c'est l'armée qui se révolte. Ça, c'est le centre. La périphérie, c'est les provinces. Alors, tout au long de la frontière, que les modernes appellent à tort le limès, un mot qui n'est pas adéquat, les légionnaires protègent l'Empire contre les barbares. Vivant durement pour la sécurité des autres, ils estiment qu'ils sont les seuls vrais citoyens romains. Que les gens du centre, les sénateurs, les habitants de la ville, les prétoriens, ne sont que des dégénérés, seulement préoccupés de leur confort. En temps ordinaire, les légionnaires ne bougeaient pas. Ou s'ils bougeaient, c'était contre les barbares. Mais quand ils l'estimaient nécessaire, ils pouvaient se rebeller. Et dans ce cas surtout, ils n'obéissaient pas qu'à leur intérêt personnel. Il ne faut pas les caricaturer. Les guerres civiles ne sont pas toujours dans l'intérêt unique des soldats. Il y a aussi, à la périphérie, les provinces. Dans les textes, on lit parfois « la Gaule pense que », « les Gaulois disent que », « les Gaulois veulent que », on peut dire aussi « les Africains », « les Espagnols » ou ce que vous voulez. En fait, la Gaule n'existait pas, l'Espagne non plus, l'Afrique non plus. Il faut comprendre que ce nom désigne soit l'ensemble des gouverneurs, soit les notables qui s'expriment dans des assemblées, qu'on appelle les concilia, qui sont parfaitement légales, ou même très rarement le peuple, mais ça arrive lui aussi. Tous ces gens étaient persuadés de la grandeur de Rome, et donc prêts à se révolter si une menace planait. Auguste a utilisé la religion pour conforter son pouvoir politique. Il a d'abord ouvertement restauré la tradition. Par exemple, il dit « Pendant la guerre civile, 82 temples ont été négligés. Je les ai tous fait réparer à mes frais. » Extraordinaire, quel bel exemple de piété. Puis, donc, il y a d'autres arguments bien, qui vont dans le même sens, puis il a donné ce que Jean Baillet appelait une inflexion à la religion romaine, c'est-à-dire en développant le culte de Mars et d'Apollon, de deux divinités particulières. Alors, là encore, on peut dire, mais c'est très bien, Mars et Apollon, ce sont des dieux extraordinaires, les honorer, c'est banal, c'est bien, ça va de soi. C'est un bel exemple de piété. Et, en réalité, Mars et Apollon sont les dieux qui protègent la famille d'Auguste. Ce sont des dieux traditionnels. Donc, il va essayer de leur donner un statut particulier. Voici le temple de Mars, qu'il reste du temple de Mars, qui domine un forum, un nouveau forum qui a été construit à Rome, qui est le forum d'Auguste. Alors, vous voyez qu'il est très endommagé, mais malgré tout, ce qu'on en voit, c'est que c'est un temple romain très traditionnel, avec construit sur un haut podium, à la différence des temples grecs, donc auquel on accède par un escalier. Vous voyez qu'au milieu de l'escalier, il y a un autel, et puis il y a une colonnade autour du temple. Ce temple, c'est le temple du dieu Mars, mais nous serons amenés à en parler tout à l'heure. Inflexion, tradition, inflexion, mais aussi création. Auguste a créé le temple, le culte impérial. Il l'a créé de manière très très discrète, sans jamais dire « je suis un dieu ». Pourtant, il l'a laissé entendre de différentes manières. D'abord en rappelant sa généalogie. Lui, Auguste, est le fils de César, qui est un dieu, qui a été divinisé après sa mort, qui descend de la famille des Jules, laquelle prétend descendre d'un héros troyen qui s'appelait Énée, qui était le fils d'un certain Anchise et de Vénus. Donc, dans la famille de César, coule le sang de la déesse Vénus, qui n'est pas seulement, comme on le croit en général, la déesse des Galipettes, elle l'est bien sûr, mais elle est aussi la déesse qui donne la victoire aux généraux romains. C'est elle qui leur apporte la victoire sur un plateau. Et cette famille des Jules est apparentée à la ville de Rome, car Énée a eu un fils, donc qui est l'ancêtre des Jules, qui est aussi d'un autre côté l'ancêtre des rois d'Albe, qui est une ville du Latium, d'où est née Rhea Silvia, une prêtresse qui s'est unie au dieu Mars, elle n'aurait pas dû, avec un mortel c'était interdit, mais avec un dieu c'est autorisé. De cette union est né Romulus, qui a donné naissance à la ville de Rome, qui a créé la ville de Rome. Donc, Auguste est fils du divin César, descendant de Vénus, et apparenté à Romulus et à la ville de Rome. Il a naturellement le droit de régner, d'exercer le pouvoir sur Rome. Voici un monument qui montre la volonté de culte dynastique d'Auguste. c'est le mausolée de la famille augustéenne, de la famille d'Auguste, Auguste lui-même qui l'a fait construire très tôt d'ailleurs, sur le champ de Mars. Alors ce mausolée a une forme circulaire, il est recouvert de terre, et il est constitué de plusieurs galeries qui sont circulaires. Ces galeries sont marquées régulièrement par des petits trous, qu'on appelle des loculi en latin, dans lesquels on dépose les urnes cinéraires des défunts. Et ce sont les monuments, c'est un monument consacré à la famille augustéenne, et à elle seule. Voici un autre monument qui traduit ce culte impérial que vous connaissez, c'est la maison carrée de Nîmes. C'est un temple qui a été construit pour Lucius et Caius César, qui sont les petits-fils d'Auguste et qui sont considérés comme des dieux par ses provinciaux. Auguste n'a rien demandé, il n'a jamais dit « honorez-moi comme un dieu », il a laissé faire les Romains et les provinciaux. C'est habile. Voilà ce temple, qui lui a encore aussi de tradition extrêmement classique, avec un haut podium, colonnade et chambre du dieu, Pronaos et Cella. Quelques monuments. Celui-ci nous permet de compléter ce schéma idéologique. Je vais aller un petit peu rapidement pour laisser la parole à mon successeur dans les minutes qui suivent. Ce monument est extrêmement intéressant. C'est une statue d'Auguste qui a été trouvée au lieu dit Prima Porta, près de Rome, dans une villa de l'impératrice Livie. Ce qui est intéressant, c'est ce que vous voyez au centre, ce qui est représenté au centre. On voit un Iranien qui tient une aigle de légion et qui la remet à un Romain accompagné par un petit animal que certains décrivent comme un chien et qui, en réalité, à mon avis, est la louve romaine. Ça renvoie à un événement de 20 avant Jésus-Christ. En 20 avant Jésus-Christ, Auguste envoie une ambassade à l'Iran en leur disant « En 53 avant Jésus-Christ, vous avez vaincu une armée romaine, vous nous avez pris des enseignes, aigle et signa. En 37 et 36, vous avez vaincu les soldats d'Antoine et vous leur avez pris aigle et signa. Ou vous nous les rendez, ou nous venons les chercher. » Ça a été probablement dit plus gentiment, plus diplomatiquement. Quoi qu'il en soit, les Iraniens ont très gentiment accepté de rendre les enseignes, et c'était une victoire. Alors, ce que nous voyons sur cette cuirasse, c'est en bas, tout en bas, la terre, Tellus, la déesse terre, qui donne les fruits de la Felicitas. Nous avons, en fait, une victoire, mais une victoire sans guerre. C'est merveilleux. Que demander de plus aux dieux? On n'a pas fait couler le sang romain, il n'y a pas eu de blessés romains, il n'y a pas eu de morts romains, il y a la victoire. Alors en bas, Tellus récompense les Romains en leur donnant ses fruits. À gauche et à droite, vous avez Apollon et sa sœur Diane, Apollon, le dieu de la famille d'Auguste, comme par hasard, qui est aussi, on vous en a parlé hier, qui est le dieu de la Mantique, bien sûr, mais qui est aussi le dieu archer. Rappelez-vous André Chénier, dieu dans l'arc d'argent, dieu de Claros, écoute, Osmanthée, Apollon, je périrai sans doute. Bon. Nous avons de part et d'autre, alors au milieu, des provinces, on ne sait pas lesquelles. À mon avis, celle de droite, c'est la Galatie, qui est devenue province romaine en 25 avant Jésus-Christ, qui était une province de tradition celtique, c'était des Gaulois qui étaient allés s'installer au centre de l'Anatolie. Et en haut, ce que René Rebuffat a analysé, comme les divinités du jour naissant. Voici, j'aurais peut-être dû passer tout de suite à cette image qui vous montre mieux le schéma en question. Tellus, Apollon, Diane, la Galatie, donc le guerrier, l'Iranien qui remet les enseignes, et au-dessus, les divinités du jour naissant qui symbolisent l'Orient. C'est la victoire de l'Occident sur l'Orient, de Rome sur l'Iran. Et le guerrier romain, c'est vraisemblablement Tibère, fils adoptif, beau-fils d'Auguste, qui est allé chercher les enseignes. Attendez, si on peut voir là. Ah oui, non, je pense qu'on ne peut pas la voir. Si.
C'était votre dernière image.
Pardon ? Vous voulez dire le plan, si on peut la voir, sinon ça ne fait rien, on passera. On passera à la dernière. Si vous pouvez, sinon ça ne fait rien. on me croira sur parole. Enfin, j'espère. Donc, il y a... Auguste a fait construire à Rome un hôtel qui s'appelle l'Arapakis, l'hôtel de la paix, Arapakis Augustae, l'hôtel de la paix Auguste en toute modestie. Bien entendu, c'est pour dire qu'il honorait la paix, la personne ne peut être contre. Mais cette paix est Auguste quand même, c'est-à-dire c'est lui qui la donne, ou du moins elle a une parenté quelconque avec lui. Alors voilà, très bien, merci. Cet hôtel est en fait, donc, vous avez un hôtel proprement dit, qui est donc simplement un cube de pierre sculpté. Ah.
Ça se met en plein écran
normalement. SKH.
Oui.
Voilà. Donc, vous avez l'hôtel, l'hôtel proprement dit, et puis sur les grands côtés, vous avez une procession sur laquelle vous avez le peuple romain, puis les magistrats, puis la famille d'Auguste, puis les Flamines, et en tête probablement Auguste. Et sur les côtés, vous avez d'un côté Romulus et Aîné, que vous avez vu sur la généalogie tout à l'heure, qui sont Aîné, ancêtre de Rome et ancêtre des Jules, et Romulus qui est l'ancêtre de la ville de Rome. De l'autre côté, vous avez Rome et vous avez l'Italie. Alors, on peut voir la dernière image, s'il vous plaît. Je vous demande d'intervenir, parce que moi, j'ai peur d'être faire une maladresse. Voilà, formidable. Très bien. Voilà ce que vous trouvez sur cet Arapakis. Alors, cette sculpture a été énormément discutée. Vous avez une femme d'âge mûr qui a une poitrine consistante, des hanches larges. Nous pouvons dire que c'est une matrone et elle symbolise la fécondité. C'est une mère. D'ailleurs, vous voyez qu'elle tient deux bambins par les bras. Vous remarquez qu'elle est assise sur une colline, sur un entassement de rochers. Pardon, je vous emprunte, je ne sais plus où j'ai mis le mien. Elle est assise sur un emplacement de rochers et il y a de part et d'autre deux jeunes dames là qui sont plus jeunes et qui sont beaucoup plus dévêtues, qui nous montrent leurs seins et qui ont des manteaux gonflés par le vent. En dessous, alors entre ces trois dames, vous avez des fruits de la terre, des fleurs, des fruits quelconques. En bas, vous avez un bœuf, un mouton. Vous avez à gauche une cruche qui est renversée. Alors ça, ce sont des choses qui sont classiques dans l'art romain, je vais vous dire de quoi il s'agit. Et à droite, vous avez en bas des flots. Alors de qui s'agit-il? Allons du plus simple au plus compliqué. La cruche renversée symbolise tous les fleuves. Ça, c'est banal, hein, c'est très connu dans l'iconographie romaine. Les vagues symbolisent la mer. Les rochers, la montagne italienne. Et comme vous le savez, contrairement à ce qu'on imagine parfois, l'Italie, c'est une montagne, c'est l'Apennin plus les Alpes. Les deux dames à gauche et à droite, là encore, ce sont des thèmes iconographiques très connus des archéologues, ce sont les vents qui soufflent sur l'Italie, le vent de terre, le vent de mer. Les fruits, le bétail, restent le personnage central. Alors là, il y a des débats infinis, je pourrais vous donner une bibliographie de 20 pages si vous le souhaitez. En général, beaucoup de gens disent que c'est Élus, la terre, avec les produits qu'elle donne. Moi, je crois que c'est l'Italie. Parce que nous avons, dans les Géorgiques de Virgile, livre 2, un passage qui est extrêmement beau, qu'on appelle l'hymne à l'Italie. Et Virgile dit que l'Italie est quelque chose de merveilleux. Deux fois, les brebis y sont mères. Deux fois, les arbres s'y couvrent de fruits, dit-il. Et puis, il décrit des rocs escarpés, des fleuves qui glissent au pied d'antiques murailles, voyez-le là. Rappellerai-je la mer qui baigne cette terre au nord et celle qui la baigne au sud, la mer indignée avec son sifflement de tempête. Et il conclut, salut à toi, grande terre de moissons, terre de Saturne, grande mère de héros. Grande mère de héros, qui est le dernier de ces héros? Mais bien entendu, c'est Auguste lui-même. Et c'est ce que veut dire ce poème, toute l'œuvre de Virgile est dans ce sens. Alors, je m'arrêterai là. Vous voyez que Auguste a créé un nouveau régime qui repose sur l'existence d'une monarchie apportant la paix aux habitants de l'Empire. Reste un problème. Que se passe-t-il quand l'empereur est vaincu. Alors, quand c'est une fois, on peut dire que c'est un accident, que les dieux sont distraits, ont oublié de faire leur devoir. Quand c'est systématique, c'est en fait ce qui est arrivé, c'est la crise du IIIe siècle. Et il y a là un problème. Ce problème, c'est une autre histoire que je vous raconterai une autre fois peut-être.
Merci. Merci beaucoup, ma chère collègue, pour ce magnifique exposé. Si M. Olyndre en tombe d'accord, j'aimerais changer un peu le dispositif, parce que les deux thèmes sont tellement différents que regrouper les questions et les réponses me paraît un peu artificiel. Et donc, je propose de consacrer, je ne sais pas, 10 minutes maintenant, à adresser des questions à M. Le Boeck, qui répondra le plus brièvement possible. Si ça pouvait être des questions plutôt que des contre-exposés, enfin, pour aller plus vite.
Voilà. Alain Sobigou, Parisien à Sorbonne. On vous attendait sur Varus. Quelle est votre interprétation de cet épisode qui met en cause Auguste lui-même ?
Ah oui, vous avez absolument raison. J'ai un petit livre qui va paraître dans quelques mois sur le désastre de Varus. Bon, il est évident que c'est une faute de l'empereur. Normalement, les dieux ne l'ont pas soutenu. Mais dans ce cas-là, la faute repose entièrement sur Varus. Ce n'est pas la défaite des Romains, ce n'est pas la défaite d'Auguste, c'est la Clades Variana. C'est-à-dire, c'est le désastre de Varus. C'est Varus qui a commis une faute. Je crois que c'est la seule explication qu'on puisse donner, qu'Auguste a donnée. De toute façon, le désastre de Varus a une conséquence immédiate qui était de semer une panique générale dans tout l'Empire romain. On voyait légèrement envahir la Gaule, ce qui n'était pas déjà grave. On les voyait surtout envahir l'Italie, ce qui était bien pire, et on les voyait même arriver à Rome. Donc tout le monde a eu une peur panique. Et quand Auguste a dit « je reprends les choses en main, j'envoie Tibère sur le Rhin », ça a calmé, ça a apaisé tout le monde. Mais on n'a pas trop pensé à rendre Auguste coupable de la faute, enfin, je pense. Hein, c'est comme ça que je vois les choses.
Oui, je peux parler. Juste un mot à propos d'une formule que vous avez employée, une formule d'ailleurs qui est un peu trop et qui est usée jusqu'à la corde, à savoir de Panem et de Circenses. J'ai l'impression que c'est la formule trompeuse dans la mesure où elle nous laisse entendre que l'empereur, dans le fond, calme le peuple et pendant ce temps-là, il continue sa petite soupe politique. À la limite, on en ferait presque un personnage totalitaire, n'est-ce pas ? Alors qu'en fait, il n'en est rien. La formule, je crois, est usée jusqu'à la corde et il faut, je crois, lui faire bon marché. D'ailleurs, les jeux à Rome, c'était très important, c'est pas une distraction. Dans le livre de Madame Lévesque, sur son beau livre, L'Empire en jeu, elle parle des jeux, justement, comme une façon de mettre en ordre et avec la présence des dieux et de tout le peuple, du peuple romain. Alors je crois que la formule est peut-être un peu trompeuse, un peu trop usée, et même usée jusqu'à la corde, parce que ça c'est devenu une formule peut-être trop employée.
La formule est bien sûr effectivement usée, mais pour ma part, comme j'ai voulu abréger mon texte, je n'ai pas dit exactement ce que j'en pensais. Ce que j'en pensais, c'était pas, ça ne part pas de l'empereur, je pars du peuple. C'est ce que je veux dire, c'est que le peuple romain, lui, n'est pas une force révolutionnaire. Ce n'est pas lui qui changera, qui rétablira l'ordre. Hein. Et effectivement, l'État, que ça plaise ou non, a quand même, d'après les institutions, deux responsabilités à l'égard du peuple romain. C'est d'abord le service de la nonne. Alors là, le service de la nonne a été bien étudié par des tas de gens sérieux. On voit bien que les citoyens romains attendent du pain, du blé plus exactement. Mais, comme Madame Virlouvet l'a montré dans ses récentes études, on ne leur donne que de quoi se nourrir quelques semaines par mois et ça les contraint à travailler. Quant au spectacle, Circenses, effectivement, c'est une forme trop concise pour dire qu'il y a d'abord différentes sortes de spectacles. Il y a aussi le théâtre. Il y a peut-être le plus important, c'est les termes, la fréquentation des termes. Et effectivement, toutes ces activités ont un aspect religieux, naturellement. Les combats de gladiateurs dans l'amphithéâtre sont un sacrifice aux dieux. C'est pour ça, bon, la formule n'est pas fausse, hein, elle est juste, mais il faut bien savoir ce qu'on y met derrière, bien entendu. Et il ne faut pas commettre d'anachronisme en la transposant dans les idéologies du XXe et du XXIe siècle.
J'aimerais vous poser une question naïve et d'ignorant. À Athènes, Athénaï, c'est la ville au sens matériel du terme, ce n'est pas une entité politique. Donc lorsque les Athéniens désignaient Athènes politiquement, ils disaient « oi Athénaioi », les oui. Athéniens, oui. Le club des citoyens. À Rome, c'est différent. Il y a bien le Senatus Populusque Romanus, mais il y a Roma, qui est une entité abstraite et concrète à la fois. Alors, dans vos schémas de délégation, si je puis dire, de la Félicitas depuis les dieux, je me demande s'il n'y a pas un étage juste en dessous des dieux qui est Rome, et que c'est Rome, cette entité, assure la continuité, si vous voulez, de la République à l'Empire. C'est une simple...
Oui, je n'avais jamais pensé à mettre Roma quelque part dans ce schéma. Roma, c'est à la fois la ville, mais c'est aussi la déesse en latin. Alors qu'en grec, Athénaioi, c'est les habitants, et la ville, ce n'est pas Athénaioi, hein, c'est Athéna.
Oui, la différence me paraît très sensible.
Athénaï.
Parce qu'il y a le sens, la conception, enfin, même très élaborée, de l'État au sens moderne du terme, c'est-à-dire ce quelque chose très difficile à définir, parce que c'est à la fois concret, ça s'incarne, si vous voyez, en même temps c'est abstrait, ça ne s'identifie à aucune incarnation. Donc ça a un côté à la fois éternel et indéfini, perpétuellement réincarné. Et ça me paraît typique de Rome. Et je ne sais pas, ça rentre parfaitement dans votre schéma, mais comme un étage intermédiaire.
Enfin, je la mettrai
parmi... Je n'irai pas jusqu'au martyr, hein, pour le soutenir.
Je la mettrai parmi les autres dieux, simplement.
Bon, simplement, bien. Et deuxième, toute petite question, la fonction tribunicienne est tout de même dans la constitution républicaine, et d'origine, si vous voulez, un élément démocratique au sens de Polybe, puisque c'est le porte-parole du peuple, non ?
Non, la puissance tribunicienne à l'origine était chargée de la défense des intérêts des plébéiens contre les patriciens. Or, les plébéiens, ce n'est pas le peuple. Les plébéiens, au départ, hein, aux origines de Rome, le pouvoir était concentré, c'est-à-dire le Sénat était concentré entre les mains des patriciens, les patresses. Les plébéiens, c'était tous les gens qui n'avaient pas accès au pouvoir. Et alors ces plébéiens, c'était une grande masse de gens pauvres, vous avez raison, mais il y avait aussi une minorité de gens riches. Et ce sont ces gens riches qui, petit à petit, ont pris d'assaut, si je peux ainsi m'exprimer, les différentes magistratures, les sacerdoces, tous les différents droits, pour devenir les égaux des patriciens. Et à la fin du cycle, donc au IIIe siècle avant notre ère, c'est vrai, au moment de la Deuxième Guerre punique notamment, vous avez une nouvelle organisation de la société avec, d'un côté, ce qu'on appelle les nobles, qui sont en fait l'addition des patriciens plus des riches plébéiens, et ceux qu'on appelle les plébéiens tout court, qui sont à ce moment-là les pauvres, effectivement. Mais des hommes libres, hein, bien entendu, jamais d'esclaves ni d'affranchis.
Oui, non, mais justement pour suggérer que dans la titulature impériale, la fonction tribunicienne, évidemment, il y a un côté instrumental pour tourner enfin, les lois, enfin, ou les décrets, ou les sentences du Sénat. Mais je me demande s'il n'y a pas également, enfin, comment dire, récupération et maintien de cette dimension. L'empereur parle également pour le peuple, non ? La plèbe,
la plèbe est plus représentée en fait à son époque par les légionnaires que par les habitants de la ville de Rome.
En fait,
bien sûr.
Non, parce que tout ça, c'est symbolique.
Si vous voulez, le peuple romain, c'est comme le Sénat, on ne peut pas le faire disparaître. Hein. Peut-être des gens qui l'auraient voulu, mais jamais personne ne l'a dit.
Vous venez d'entendre la communication de Yann Le Boeck, professeur à l'université de Paris 4 Sorbonne, intitulé « Le rôle de la guerre dans la vie politique romaine à l'époque d'Auguste ». Retrouvez l'ensemble des communications du colloque international « Guerre et politique » sur Canal Académie.